Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du JDA, l'émission Vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, nous lançons le débat sur l'offensive de charme de la Russie en Afrique. Le président Vladimir Poutine a donc inauguré hier le premier sommet Russie-Afrique en présence de plus de 40 chefs d'État venus du continent. Il a promis de doubler les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique en 5 ans. Et après la chute de l'URSS dans les années 90, la Russie opère ainsi un retour remarqué sur le continent. Alors, que pensez-vous de ce retour ? La Russie est-elle devenue le nouveau partenaire privilégié des Africains ? Quelles sont les spécificités de la coopération russe ? Pour nous faire part de vos analyses, de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant. Le numéro à composer, que vous soyez à Abidjan, Paris ou encore N'Djamena, c'est le 33 1 55 07 58 00. Et le numéro WhatsApp pour nous faire part de vos commentaires, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, je voulais intervenir concernant Kofi. Kofi Olomide, c'est un menteur. Il a fait ça et on l'a arrêté là-bas pour nous calmer qu'il n'est pas avec le gouvernement. Il est avec le gouvernement dedans même, celui qui mange avec tous les assassins du Congo. Il ne doit pas jouer, on attend la date. Le jour où là, ça sera une grande mobilisation des Congolais. Tu n'es pas plus malin que tous les Congolais, Kofi. Hein. Tu ne prends pas comme des cons. Hein. On t'attend. Tu as fait ton jeu là pour que les gens disent non, Kofi n'est pas avec le gouvernement, on l'a arrêté. Non, 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 non. On te connaît, toi. On t'attend. Mets la date et puis tu dois savoir. Merci.
Monsieur Soro Guillaume, vous êtes bien député de faire que c'est de goût. Mais quelle est cette présomption à vouloir s'attacher forcément à vos anciens titres partout où vous passez? Vous rappelez que vous avez été ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte. Mais monsieur Soro, vous oubliez que, comme l'a dit monsieur Gbagbo, tout ce que vous avez eu, c'est grâce aux armes. Et monsieur Gbagbo l'a dit, le jour où vous n'aurez plus vos armes, vous ne serez plus rien. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc s'il vous plaît, présomptueux, vous êtes député de faire que c'est de goût.
Oui, bonjour amis auditeurs de Mode Bang. J'appelle ce matin pour remercier l'autorité morale du FPI, le président Laurent Gbagbo. Oui, merci monsieur le président Laurent Gbagbo pour cet éclaircissement. Merci monsieur le président Laurent Gbagbo de nous avoir dit ce qu'on ne savait pas. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux depuis hier que vous nous avez dit une vérité que l'autorité morale du PDCI nous cache, à savoir le président Henri Konan Bédier. Oui, vous avez dit, et je vous cite, « Quand je prenais le pays, il n'y avait même pas de courant dans la maison d'Oufouet-Boigny. Quand je prenais le pays, il y avait de la forêt dans la cour d'Oufouet-Boigny. » Ah oui, il fallait vous pour qu'on le sache. Il fallait vous pour qu'on le sache. Il faudrait qu'on dise merci à Gbagbo Laurent, son excellence Gbagbo Laurent. Merci à toi encore une fois de plus, monsieur Gbagbo Laurent, président de la ex-président de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Ciao. Jomo de Beng.
Bonsoir, chers amis de la radio Africa Radio. Je vous dis bonsoir. Madame Stéphanie, bonsoir à vous et merci encore de nous avoir donné encore la parole. Je voudrais dire un peu, Madame Stéphanie, mais vous le savez, je le sais, les Ivoiriens le savent et la communauté nationale comme internationale le savent que le docteur, le président Alassane Ouattara ne briguera pas un troisième mandat. Ça, je peux vous le jurer. Ce monsieur est un digne fils, il ne briguera pas un troisième mandat. L'histoire du troisième mandat est devenue qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas dit ? Transmettons le moi et mon aîné, le président Bédié, transmettons le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Bédié n'a pas aimé, voilà pourquoi je dis Bédié le trait de tout. Quand on a dit nouvelle génération, on se regarde, on s'est vu directement lui, on dit à ce regarde que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il vient d'arriver au RHDP. Nous allons faire des élections et en France, nous allons trouver maintenant un candidat capable pour conduire le RHDP à notre victoire en 2020. Moi, je vous le dis, le président Alassane Ouattara ne briguera pas un troisième mandat. Que les gens arrêtent de le comparer à Alpha Condé, non. C'est deux choses différentes. Alpha Condé, c'est la Guinée. Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. À bon entendeur. Merci. Au revoir.
Oui, je m'appelle M. Yao. Et j'aimerais me prononcer sur les propos du président du Niger. Le raisonnement, il est très simple. Moi, je pense qu'il faut gérer les naissances. Parce que la nature, c'est quoi gérer les naissances? C'est connaître le fonctionnement de la nature pour maîtriser et le mettre à profit. Donc, de la même manière que quand vous plantez une graine pendant la saison sèche, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de fleurs. Si vous plantez une graine pendant la saison pluvieuse, elle sera bien arrosée et vous aurez des fleurs. Alors, c'est comme ça qu'il faut connaître naturellement aussi le fonctionnement du corps de la femme. Et c'est tout à fait naturel. C'est pas une œuvre artificielle que de connaître le corps de la femme et savoir l'utiliser pour le mettre à profit. Dieu a tout donné. Je pense que c'est aussi un acte naturel que de connaître naturellement le fonctionnement de la femme et de gérer les naissances en fonction. Donc, c'est pas une idée qui est contre-religieuse, c'est pas une idée qui est contre-nature, la gestion des naissances.
Oui, bonjour. Oui, justement, j'ai écouté l'émission de M. Francis Lepoko aujourd'hui sur la Guinée. Ce qui me met en colère un peu, c'est le comportement de la classe politique guinéenne. Concernant la manifestation du 14 octobre, on sait qu'il y a 10 morts, en fait. Officiellement, il y a facilement 10 morts. Alors, le pouvoir, il dit que c'est l'opposition qui a commis le crime. L'opposition prétend que c'est le pouvoir. Je pense que si on était avec la classe politique sérieuse, je crois que c'est pas très difficile d'organiser une enquête internationale. À chaque fois en Guinée, les manifestations, il y a des morts, mais jamais il y a des enquêtes, on n'a jamais su qui a commis le crime. Disons, il n'y en a jamais de condamnation. Je pense que les Guinéens sont très fatigués avec cette classe politique qui est incapable de ramener la Guinée en paix. Et M. Alpha Condé, quand il est opposant, il dit qu'il ne veut pas gouverner le cimetière en Guinée. Et malheureusement, aujourd'hui, depuis qu'il est là, ça fait 9 ans, on va dire bientôt 10 ans, il y a quand même beaucoup de morts. Bon.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Je m'excuse par avance, je ne peux pas toujours les faire passer en intégralité, ils sont parfois longs. Voilà, on essaye de faire des messages qui sont entre une minute quinze, vous savez tout. Aujourd'hui, dans le JDA, que faut-il penser de la coopération russe? La Russie opère depuis quelques années un retour remarqué sur le continent africain, notamment dans sa région Est. Depuis 2017, la Russie a signé 20 accords de coopération militaire. Alors, la coopération russe passe principalement par la vente d'armes, mais aussi de réacteurs nucléaires civils, contrairement à son partenaire chinois qui use davantage du soft power, d'une influence discrète. La Russie, elle, vend son hard power plutôt militaire. Alors, qu'en pensez-vous? Comment la Russie concurrence-t-elle les pays occidentaux sur le continent, et notamment la France en Centrafrique? Quels avantages les pays africains peuvent-ils tirer de la coopération russe? 33-1 55-07-58-00. La parole est à vous. Et on va tout de suite retrouver Kodjo du côté de Pomacé, c'est au Bénin. Kodjo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Kodjo. Alors, je pense, est-ce que votre président, le président béninois, n'a pas fait le déplacement à Sotchi, je pense?
Le président béninois a bien fait le déplacement à Sotchi.
D'accord, je ne l'avais pas dans ma liste. Autant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sommet, Kodjo? Est-ce que c'est une bonne chose, finalement, pour les pays africains de diversifier ainsi leurs partenaires?
Bon, le problème, c'est que l'Afrique va chercher les solutions à ces problèmes qui sont africains en Russie, ce qui est anormal. Parce que les problèmes de l'Afrique se trouvent en Afrique et ces solutions aussi se trouvent en Afrique. La Russie a organisé ce sommet pour la guerre actuelle, qui n'est plus une guerre militaire, mais une guerre technologique. Et et pour aussi
oui.
donner plus d'ampleur à sa politique diplomatique dans les organisations internationales telles que l'ONU.
Effectivement, ainsi, hein, la Russie, d'ailleurs, on se souvient que lors de l'annexion de la Crimée, hein, beaucoup de partenaires africains de la Russie, hein, notamment le Soudan, hein, mais aussi hein, l'Égypte, avaient refusé hein, de s'associer à cette condamnation. Donc vous, vous êtes prudent, vous dites finalement, voilà, la Russie, elle est comme les autres, hein, elle cherche son intérêt dans cette coopération.
Oui, oui, la Russie cherche son intérêt. Vous savez, comme le soutient le spécialiste français, le très respectueux professeur Bertrand Badier, les puissants ont besoin des faibles aujourd'hui pour donner leur pour affirmer leur puissance, leur suprématie. Donc la Russie a besoin des faibles qui sont les Africains et même les et quelques Asiatiques pour se repositionner sur le plan surtout économique, mais aussi sur le plan hégémonique.
Effectivement, c'est le dernier livre hein, de Bertrand Badier hein, qui parle de la faiblesse, hein, d'ailleurs, de la puissance et de la puissance des faibles, hein, un truc comme ça. Merci beaucoup, Coach Joe, hein, pour cette analyse nourrie. Hein. Je vous souhaite une excellente journée hein, du côté de Pomacé.
Merci beaucoup à vous.
Merci, Coach Joe. Hein. Coach Joe qui dit attention, prudence, 33 1 55 07 58 00. Je demande à Christian de patienter un peu parce que il me semble que Christian est à peu près sur la même ligne que Coach Joe. On va écouter un autre point de vue avec celui de Brice. Brice, bonjour.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, Monsieur Brice. Vous voyez ça comme plutôt une bonne chose.
Voilà, je m'inscris totalement, mais totalement en faux en ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est plutôt une espèce de porte-parole de la diplomatie occidentale qui parle.
Le pauvre Kojo est Pomacé, tout ça. Bénin, vous êtes en France. Enfin, s'il vous plaît, respectez les opinions des autres sans forcément les épingler comme des.
C'est vrai, pardon.
Merci.
Mais en tout cas, non, parce qu'il a même pas mis une nuance dedans. Je suis désolé, il y a un passif derrière ce que les Occidentaux font. Aujourd'hui, en fait, la Russie. Non pas qu'elle est hyper puissante et qu'elle est plus magnifique que les autres, mais tout simplement, elle jouit de la souffrance, de manque du manque de crédibilité des puissances occidentales aujourd'hui. Elle s'affirme plus militairement qu'économiquement aujourd'hui. C'est son cheval de bataille en fait. Tous ces chefs d'État là qui étaient là en face du président russe ont parlé de sécurité. Or aujourd'hui, le discrédit est tombé sur tous les pays occidentaux. Qui ont toujours été à l'inverse des intérêts des peuples, des pays dans lesquels ils ont intervenu. Et ça, c'est pas moi qui l'invente.
Ce discrédit des Occidentaux crédite automatiquement la Russie? C'est ça la limite du raisonnement.
Quand vous souffrez sous les mains de quelqu'un depuis longtemps et vous savez que ça ne s'améliorera pas, et ben pour peu qu'il y ait une nouvelle main qui arrive, vous espérez en lui quelque chose qui va peut-être amoindrir votre souffrance, mais pas forcément vous sauver. Je l'ai toujours dit, moi. Moi, j'ai toujours dit, depuis que Sarkozy est arrivé au pouvoir en France, j'ai compris que l'Occident, en vérité, on n'y allait même pas doucement. Le soft power, comme on dit, c'était même pas ça. C'était, on casse tout ce qu'on peut casser, pourvu qu'on défende nos intérêts et par tous les moyens. Et ben, j'ai compris que.
Je vous rassure, c'était bien avant Sarkozy.
Oui, c'était bien avant Sarkozy, mais Sarkozy, ça s'est beaucoup plus brutalisé. On l'a vu avec la Libye. Moi, depuis là, j'ai dit. Moi, aujourd'hui, je vois en tout cas une puissance qui monte, qui tient ses engagements et qui a toujours dit d'abord le dialogue avant les armes. D'abord le dialogue avant les armes. Les Russes, à part chez eux, contre les Tchétchènes, les Russes n'ont pas porté de violence contre d'autres pays.
La Russie est impliquée militairement en Syrie, mon cher Brice.
La Syrie, justement, elle est partie régler la situation en Syrie. C'est pas le cas d'aller déstabiliser un pouvoir. La Russie n'a jamais... prenez la déstabilisation de ce pays-là, ce qui a été le cas des pays occidentaux. J'espère, c'est que la Russie aidera l'Afrique, non pas parce qu'elle est la Sainte Vierge, mais tout simplement parce que la Russie a son intérêt à le faire. Aujourd'hui, les Occidentaux se sont mis...
Et comment, dans ce contexte, Brice... Mais je ne vais pas vous laisser répondre, Brice, parce qu'il y a d'autres auditeurs et ça fait déjà...
D'accord, pardon.
Merci, Brice, hein, on a bien compris. Mais comment, voilà, dans ce contexte, hein, les pays africains, eux, peuvent jouer leur partition? C'est aussi ça? Ou est-ce que, finalement, les pays africains restent des espèces de convoitises, voilà, dans une position passive de convoitise? Christian, bonjour.
Oui, bonjour, Stéphanie.
Bonjour Christian, vous êtes du côté du Tchad et vous vouliez revenir sur justement cette coopération militaire, on l'a dit, hein, la Russie vend énormément d'armes sur le continent, elle est même depuis passée au niveau mondial le deuxième vendeur d'armes loin derrière les États-Unis.
Oui, cette coopération va plutôt dans l'intérêt de la Russie parce que la Russie va vendre son stock d'armes aux Africains. Normalement, les États africains doivent orienter cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Parce que nous avons vu la guerre a vraiment appauvri l'Afrique. Nous ne devons pas chercher l'aide militaire. Nous avons vu la RC avait demandé l'aide militaire. Le Niger vient d'acheter 12 hélicos militaires. Et c'est vraiment un handicap pour le développement de l'Afrique.
C'est très clair. C'est votre avis, hein. C'est tout. Vous avez fini, Christian. Ah non, c'est pas Christian qui a fini, c'est la ligne qui a rompu. Merci Christian, hein, qui s'inquiétait de la vente d'armes sur le continent. D'ailleurs, la Russie a fait un retour remarqué, notamment en Centrafrique, après le départ des troupes françaises. Hein. D'ailleurs, plusieurs conseillers militaires russes entourent désormais le président centrafricain. Il y a aussi une société de sécurité russe, Wagner, qui est déployée en Centrafrique. Et à Sotchi, hier, dès l'ouverture, Faustin Archange Touadéra, président de la RCA, a demandé à Moscou de lui envoyer des moyens létaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer, des véhicules blindés de transport de troupes et réclamer l'intervention de la Russie pour la levée totale de l'embargo sur les armes. Est-ce que cela peut permettre de trouver une issue à la situation sécuritaire en Centrafrique? Que pensez-vous de cette coopération militaire? Et peut-être aussi au Mali, la Russie a signé il n'y a pas longtemps un accord avec le Mali. La Russie est-elle plus efficace en termes de sécurité que d'autres partenaires? 33 1 55 07 58 00. Roland, bonjour.
Bonjour madame Aslam.
Bonjour monsieur Roland. Alors vous aviez une question. Alors vous voulez savoir si les États africains y sont allés de façon unifiée ou si c'était chacun de son côté?
Oui, voilà.
Bon, je pense que s'ils sont allés chacun d'individuel parce qu'il y en a un qui est resté sur place et une présence très remarquée, c'est Paul Biya qui ne s'est pas rendu à Sotchi. Il a plutôt rencontré, et c'est un signe intéressant, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian.
D'accord, le ministre français, encore une fois, ça recommence encore, comme si c'était pas assez. En fait, moi, la question que je me posais, c'est vrai, la Russie, il faut être pragmatique. Elle vient pour faire ses emplettes. Il faut qu'on arrête de croire qu'elle vient pour aider l'Afrique. C'est une question de business. Je te donne, tu me donnes. Et à partir du moment, pas qu'on oublie que c'est, comment s'appelle, le président russe...
Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, qui n'est pas un enfant de cœur. Voilà. Tout le monde sait sa façon de fonctionner. Donc si aujourd'hui il se tourne vers l'Afrique pour vendre ses armes, c'est parce que pour lui, c'est une grande porte qui s'ouvre et la possibilité de faire des affaires. Donc les Africains, encore une fois, l'union fait la force. Après, c'est vrai que c'est chacun son état, mais est-ce qu'ils sont allés de manière à ce que les choses soient faites pour que l'Afrique en sort grandie, l'Afrique en sort plus forte, ou si c'est chacun qui a joué sa partition? Parce que c'est là le problème.
Est-ce qu'il faudrait, vous dites qu'il faudrait négocier finalement, là je pense que les pays négocient chacun de leur côté avec la Russie, vous dites qu'il faudrait négocier ensemble, c'est ça,
bien sûr,
des accords commerciaux.
C'est pas impossible, c'est vrai que s'il y a un État qui est plus développé que l'autre, c'est sûr qu'il aura un pourcentage, mais...
Il y a quand même 54 États en face,
oui,
il faudrait que les 54 se mettent d'accord, ce qui n'est pas toujours évident.
Ils peuvent se mettre d'accord, tout simplement c'est qu'ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas. Sinon, ils peuvent se mettre d'accord parce que jusqu'ici, l'Afrique s'en est jamais sortie. Chaque fois que quelqu'un s'est présenté avec un sac plein de billets, mais chacun a joué sa partition et à la fin, on a vu ce que ça a donné. L'Afrique perd toujours. Donc, il serait peut-être temps qu'un jour, ils se mettent ensemble pour pouvoir discuter de ce qui peut faire avancer l'Afrique. C'est pas être utopique, c'est une réalité parce qu'au final, c'est nous qui perdons. Voilà. Donc, ne soyons pas dupes. Vladimir Poutine est venu pour faire ses affaires. Tant qu'il peut, il peut prendre ce qu'il a à prendre, il prendra. Hein, et puis l'Afrique se débrouille.
Oui, voilà, c'est aux pays africains de jouer leur partition. Et vous dites, l'union fait davantage la force et vaut mieux voilà négocier des accords tous ensemble que pays après pays. Merci Roland.
Merci.
Bonne route Roland. Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Roland qui dit voilà, c'est important, mais voilà, c'est aussi la capacité de négociation des pays africains qui va compter. 33 1 55 07 58 00. Dans un instant, on va écouter Amadou. Alors, je n'ai pas le prénom de la ligne 4, mais je suis sûre que Gertrude va me l'indiquer. Et j'ai le temps, du coup, de vous lire quelques messages sur WhatsApp. Alors, Aruna qui nous dit l'Afrique a besoin du monde et le monde a besoin de l'Afrique. Hein, l'essentiel que ces échanges commerciaux soient gagnants. Alors, hein, je le rappelle, hein, Vladimir Poutine a annoncé la volonté de doubler les échanges commerciaux en 5 ans. Et il faut savoir quand même aussi que la Russie est sous sanction de l'Union européenne, où elle ne peut plus vendre ses marchandises. Elle a besoin de nouveaux marchés. Qui va jouer l'insolent, j'en suis sûr encore. Non, je taquine. Il dit, on espère que ces chefs d'État des pays CFA ne vont pas aller acheter les mêmes armes qu'ils achètent chez leurs maîtres français pour zigouiller la population et se maintenir à vie au pouvoir et acheter des vraies armes plutôt pour protéger le continent. On verra bien. Et puis, alors ça doit être William qui nous dit, bonjour, ce sommet Russie-Afrique ne changera rien à la vie sociale et économique des populations africaines. Que veulent au juste les Occidentaux en Afrique? La réponse est qu'ils veulent tout savoir et prendre leur part sur le continent. Il n'y aura jamais de coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Occident. Un seul pays invite tout un continent pour parler coopération. Franchement, ce n'est pas normal. Ils veulent tout savoir et prendre leur part, hein, chacun en Afrique, en passant par des sommets qui n'aboutissent à rien. Voilà, hein, c'était l'avis de William. Amadou, bonjour. Ah, Amadou de Grenoble.
Bonjour Stéphanie Appert, bonjour Radio Africa. Effectivement, l'Afrique ne doit pas s'enfermer sur lui-même parce que c'est l'union qui fait la force. Il faut qu'il s'unisse parce que si quelqu'un, l'être humain, c'est un loup pour l'humain, l'exploitation, il ne cherche que leur intérêt. Donc les Africains, il faut qu'ils défendent leur intérêt aussi, l'intérêt de l'Afrique. Non seulement la politique africaine n'a rien à voir, la politique culturelle africaine n'a rien à voir avec la politique occidentale. C'est ça que moi j'ai à dire. On ne peut pas s'enfermer soi-même en même temps on veut être riche. Il faut qu'on soit ouvert, être courageux, être pas que les autres ne décident pas à notre place.
C'est très clair.
C'est ça. Voilà.
Merci Amadou, hein, que les autres hein, ne décident pas à notre place. D'ailleurs, Vladimir Poutine a mis l'accent hein, sur le nécessaire respect de la souveraineté des pays africains. Il y a quelques jours, avant le sommet, il a dit « Nous voyons comment certains pays occidentaux ont recours à la pression, à l'intimidation et au chantage contre des gouvernements souverains africains. Ils utilisent de telles méthodes pour tenter de se redonner une influence et une domination perdue dans leurs anciennes colonies sous une nouvelle forme et ainsi pouvoir en tirer le maximum de profit en exploitant le continent. » À qui profite le respect de cette souveraineté évoquée hein, par Vladimir Poutine, on en parle avec... Ah, Blaise. Blaise, bonjour. Allô, Blaise.
Oui, bonjour.
Bonjour, Blaise. Bienvenue. Vous vouliez revenir sur le cas Biya. Hein. Vous pensez qu'il est resté
oui.
Sur injonction de la France? En tout cas, bon, personne ne l'a obligé, peut-être, mais...
Avec le problème anglophone, il a un peu intérêt à caresser la France dans le sens du poil, je pense.
Bon.
Donc, voilà. Mais en passant, je profite pour dire que la France n'est pas bien placée pour donner des leçons à Paul Biya concernant nos problèmes anglophones.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont les problèmes de gilets jaunes ici, ils ont beaucoup de problèmes ici que nous connaissons.
Mm.
Donc, et chacun règle ses problèmes comme il peut. Et nous pouvons plus de nombre de morts ici. La Russie en a parlé de 12 morts, je crois, suite aux gilets jaunes. Qu'on laisse notre État régler ses problèmes. Si on veut nous aider, qu'on nous aide par le dialogue ou par d'autres moyens, mais qu'on arrête de nous donner des leçons de morale.
Mmh. Alors ça, avec la Russie, vous êtes tranquille, hein, pas de leçons de morale. Vous trouvez ça plutôt bien? C'est une bonne chose, pour vous.
Ah oui, c'est temps. La Russie, vous savez, madame, j'ai fait mes études en Russie. C'est un pays où on est frais. C'est-à-dire, j'ai eu des gens qui sont morts par les victimes du racisme.
Est-ce que par hasard, vous pouvez enlever votre kit main libre, Blaise?
Je parle à la radio, mais bon, je vais m'arrêter de...
Non, bah alors continuez, allez-y, continuez, je vous écoute.
D'accord. Donc, c'est encore que... La Russie est un pays frère, en fait. C'est un pays où on ne vous aime pas, vous savez qu'on ne vous aime pas. Et je pense que nous avons besoin d'un interlocuteur pareil. Et surtout d'un homme fort comme Poutine. Regardez ce qu'il a fait à... En Syrie.
En Tchétchénie.
Ou en Tchétchénie. c'était guerre. La France a eu des problèmes avec les Kanaks, je crois, où ils sont allés tuer des gens qui avaient pris juste des machettes.
En Nouvelle-Calédonie, oui.
Voilà, Nouvelle-Calédonie. Donc, on ne peut pas, à chaque fois, se juger un peuple, prendre que c'est un regardeau sur le bien.
Regardez quoi?
Le bien, son bon côté. La Russie a Tchétchénie, ça n'a pas été un grand succès. Mais par contre, en Syrie, c'est d'accord avec moi, vous en conviendrez, ils vont bientôt vivre dans la paix.
Je vous écoute, Blaise. En fait, à cause du Kid Malib, j'ai du mal à vous comprendre. Je me rappelle qu'un célèbre rappeur a dit « Qui veut la paix prépare la guerre », je te le rappelle. Un truc comme ça, non?
Oui.
Ah.
C'est mieux, là?
Beaucoup mieux, oui.
Voilà. Donc, je disais que nous ne pouvons pas juste nous baser sur les côtés sombres de chaque État. Nous en avons tous. Même dans nos histoires personnelles. Moi qui vous parle, j'ai sans doute un côté... J'ai sans doute des cadavres dans mon tiroir.
En vrai, j'espère. On comprend bien, mais finalement, vous dites, voilà, aucun État n'est irréprochable, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas d'État vertueux comme ça en soi.
Voilà, voilà. Et en ce qui concernait l'auditeur qui me disait que la Russie ne vient pas par charité. Non, un État ne peut pas. De Gaulle disait qu'un État n'a pas d'amis. La Russie vient pour ses intérêts.
Vous remarquerez que ce n'est pas la Russie qui vient, mais c'est plutôt les chefs d'État africains qui vont vers la Russie.
Oui, mais c'est une invitation. On peut y aller au début. Parce qu'il nous a, il a réuni beaucoup d'États, mais on peut y aller et discuter et essayer de trouver des accords qui arrangent tout le monde. Ce n'est pas parce que vous venez chez moi manger que vous allez être d'accord avec tout ce que je vous propose ou tout ce que je vous dis.
Bien sûr.
Si nous devons juste trouver des présidents ou des hommes d'État qui sont capables de défendre leurs intérêts aussi, comme la Russie. La Russie ne va pas par charité, elle y va pour y trouver son intérêt.
Donc est-ce que vous faites confiance à vos présidents aussi pour négocier au mieux leurs intérêts? C'est les mêmes qui ont des relations avec l'ancienne puissance coloniale, ce qui concerne plutôt la zone Afrique de l'Ouest et centrale, qu'avec la France.
Ça c'est vrai. Mais oui, mais le problème, c'est que ces accords ont été signés avant, avec, on ne pouvait pas en discuter, c'est-à-dire on était très faibles. Aujourd'hui, quand vous faites un accord, vous avez peur que le peuple, aujourd'hui il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a tout, on vous appelle d'Afrique, sur Africa Number One, comme si on appelait de la France, on vous appelle de n'importe où, comme si on vous appelait de là. Donc,
on ne peut plus avoir des accords secrets. Ouais, je vous rassure, il y a quand même des accords secrets qui sont signés, mais allez-y.
Oui, il y a des accords secrets. Bah, c'est ça qui fait un État. C'est que il y a des choses qu'on ne peut pas être au courant. Même dans une famille, il y a des accords que le père et la mère gardent pour eux. C'est logique. Tout ce que je demande juste, c'est que arrêtons de jeter l'opprobre sur la Russie. C'est un grand pays. C'est un pays qui a ses valeurs à elle. C'est comme nous devons avoir nos valeurs. Donc, et elle vient nous proposer un partenariat. Dans un partenariat, on est sans doute deux ou plusieurs, mais chacun doit y trouver ses intérêts. Encourageons plutôt nos dirigeants en disant, ne fermez pas la porte, remettez tout sur pied, quel que soit l'État, c'est-à-dire que ce soit par exemple avec la France, avec le Japon, avec la Chine et autres, et prenez les meilleurs pour vos peuples. Pourquoi je suis en France depuis plus de 25 ans, madame? Vous croyez que je viens d'un pays...
C'est que le reste du temps, beaucoup d'entre vous voilà, fustigent finalement le comportement de leur président en disant qu'ils ne pensent pas à leur population. Et là, finalement, vous espérez que ça soit différent lors de ce sommet?
Oui. Et juste une petite précision. Je ne fustige pas mon président Paul Biya.
Ah oui, pas vous, pardon, excusez-moi.
Non, je ne le fustige pas. Je suis toujours convaincu, c'est vrai que ça n'a pas évolué. Quand j'ai quitté le Cameroun et quand j'y rentre maintenant, on a plutôt reculé. Mais quand cela ne tienne, je dis, il n'est jamais trop tard, madame. Je n'ai pas soutenu Kamtopa parce que je ne l'aimais pas, parce que je ne le connais pas, par exemple. Je ne le connais pas.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous dites, c'est ça. Hein.
Voilà.
Merci, Blaise. Merci.
Je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et que l'Afrique gagne, quoi.
Eh ben, je vous souhaite également plein de belles choses. On vous souhaite plein de belles choses, mon cher Blaise. Et voilà, la parole est à vous sur Africa Radio dans le journal des auditeurs. C'est votre émission, bien sûr. Bazar, bonjour.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Monsieur Bazar. Vous dites, l'enjeu est très important pour les Africains depuis l'indépendance.
Oui, je disais tantôt que la France et l'Union européenne ont la même mise totale sur les pays africains, surtout francophones. Et depuis un certain temps, nous voyons la France avec une certaine violence s'installer, se réinstaller en Afrique. Et donc, l'arrivée de la Russie, qui, quelque part, sur le plan international, a toujours aidé le monde à être équilibré. C'est-à-dire, la Russie, quand la France veut, par exemple, faire la guerre, nous avons vu en Syrie, c'est la Russie qui posait le droit des droits de veto. Et donc, si la Russie met pied en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et c'est à la France de s'inquiéter et de revoir sa conduite vis-à-vis des États africains, surtout l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le peuple africain qui va gagner, parce que ça fait plus de 50, bientôt 50 ans que les États africains ont leur indépendance. Mais rien ne change, nous allons en reculons. Et tout ça, c'est à cause de la France. Pourquoi? Parce que la France n'a pas de concurrence sérieuse dans les États africains. Donc nous ne connaissons pas certainement les ambitions cachées de la Russie. Mais ce que nous savons que la France, on en a marre.
Bon, oui, c'est le raisonnement qu'on entendait, que ce que disait Brice en début d'émission, c'est-à-dire que voilà, les autres partenaires se sont tellement discrédités qu'on donne du crédit à celui qui les fustige. Merci. Bazar, on va écouter Nelson, il reste moins d'une minute, Nelson. Bonjour, Nelson.
Oui, bonjour, madame.
Allez-y, en coupez fait, votre radio, Nelson, ce sera bien. Dépêchez-vous. Pardon, ça va couper. Non, vous voulez pas couper votre radio, Nelson. Bon, c'est pas grave.
C'est bon.
Bon, rapidement, Nelson, en 20 secondes, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais parler pour l'équilibre de la Russie, parce que au niveau de la sécurité mondiale, on a senti un équilibre que la Russie est en train de mettre. La Russie et la Chine, aujourd'hui, ce sont des pays qui essayent un peu d'éviter les guerres dans ce monde-là. Il y a des vétos tout le temps. Au moment où on voulait faire quand même la guerre avec la Libye, on a senti la Russie a mis un veto. Sauf que les États-Unis d'Amérique, ils sont partis comme ils sont partis.
Ah bah, on est malheureusement. Nelson, j'ai plus le temps de vous laisser la parole. Il nous reste juste 25 secondes. Mais on a bien compris, c'est ce que disait le précédent auditeur. Hein. Voilà, vous vous dites, finalement, l'action de la Russie vient rééquilibrer un peu les relations internationales. Merci à tous de votre participation. Hein. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux. Demain, ce sera la libre antenne du journal des auditeurs. Nous pourrons revenir sur ce sujet. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, en laissant un message sur le répondeur. À demain.